La mère Beauchel. Raoul la vit dans une telle surexcitation qu'il la ramena vers le manoir. C'était la première sortie de la jeune fille et elle ne devait pas abuser de ses forces. Durant 2 jours, il usa de son influence sur elle pour la calmer et pour lui montrer l'aventure sous un aspect moins tragique. Elle s'apaisait sous les yeux de Raoul. Elle se sentait à l'aise, détendue et sans force contre cette volonté bienfaisante et affectueuse. Alors il insista pour qu'elle reprît son récit, ce qu'elle commença par faire en termes plus posés. Évidemment, au début, tout cela n'aurait pas dû me paraître très bien grave, mais tout de même, puisque je ne pouvais pas admettre qu'il y eût erreur de ma part, puisque ni ma sœur ni Arnold ne me contredisaient absolument, mais que penser de cette transplantation? Mais de quelle façon l'avait-on effectuée et dans quel but? Mais l'incident ne devait pas tarder à m'apparaître sous un autre jour, et sous un jour bien plus angoissant. En fouillant le manoir, autant par curiosité que pour ranimer tant de jolis souvenirs, je découvris dans un coin du grenier où mon grand-père avait installé un petit laboratoire avec table, fourneau à pétrole, cornue, etc., un carton à dessin et à épure, et parmi les feuilles éparses de ce carton, il y avait un plan topographique du jardin. Oh, je me rappelais tout à coup ce plan. J'y avais collaboré 4 ou 5 ans auparavant. Ensemble, grand-père et moi, nous avions pris des mesures et relevé des côtes. Toute fière de la tâche que l'on me confiait, je tenais un des bouts de la chaîne d'arpentage ou le viseur à trépied ou l'un quelconque des instruments nécessaires. Le résultat de nos travaux communs, c'était ce plan que j'avais vu mon grand-père tracer, qu'il avait signé de sa main et où je m'étais si fort amusé devant la rivière bleue et devant le point rouge du pigeonnier. Et le voici. Elle déroula la feuille sur une table et l'y fixa par 4 épingles. Raoul se pencha. Le long serpent bleu de la rivière passait sous l'esplanade d'entrée, se redressait, touchait presque à l'angle du manoir, s'évasait un peu à l'endroit de l'île, puis brusquement virait entre les roches et la butte aux Romains. Les pelouses étaient dessinées, et de même le contour du manoir et celui du pavillon de chasse. Le mur à contrefort limitait le domaine. Un point rouge marquait le pigeonnier. Des croix fixaient l'emplacement de certains arbres, signalés d'ailleurs par leur nom, le chêne à la cuve, le hêtre rouge, l'orme royal. Le doigt de Catherine s'était posé tout au bout du parc, sur la gauche, près du serpent bleu. Elle désignait une triple croix avec cette inscription à l'encre de son écriture, les trois saules. Les trois saules, dit-elle sourdement. Oui, là, après les roches et après la butte aux Romains, c'est-à-dire à l'endroit où ils sont aujourd'hui. Et de nouveau nerveuse, elle continua avec une même intonation assourdie et saccadée. Alors quoi? J'étais devenue folle? Ces arbres que j'avais toujours connus sur le tertre, que j'y avais vus encore 2 années auparavant, n'y étaient déjà plus à cette époque, puisque le plan établi par grand-père et par moi datait de plus de 5 années. Il était donc possible que mon cerveau fût en proie à de telles aberrations. Je luttais contre l'évidence des faits. Oh, j'aurais préféré croire au transport des arbres pour des raisons que j'ignorais. Mais le plan contredisait le témoignage de mes yeux et la conviction de ma mémoire. Et obligé par moments d'admettre mon erreur. Je défaillais d'angoisse. Toute ma vie me semblait une hallucination, tout mon passé un cauchemar où je n'avais connu que vision fausse et réalité mensongère. Raoul écoutait la jeune fille avec un intérêt croissant. Dans les ténèbres où elle se débattait, lui-même, malgré quelques lueurs que lui donnait la certitude d'atteindre le but, lui-même, il n'apercevait encore que confusion et incohérence. Il lui dit « Et de tout cela, vous ne parliez pas à votre sœur ?»« Oh non, ni à ma sœur, ni à personne. » « À Béchou, cependant, ou pas davantage. Je n'ai jamais compris la raison de sa présence à Radicatelle. Je ne l'écoutais que quand il nous racontait quelques-unes de vos campagnes communes. D'ailleurs, je devenais sombre, soucieuse, et l'on s'étonnait de voir mon humeur presque sauvage et mon déséquilibre. « Mais vous étiez fiancée !» Elle rougit. « Oui, j'étais, je suis fiancée, ce qui était encore pour moi une cause de tourment, puisque la comtesse de Basme ne veut pas que j'épouse son fils. « Vous l'aimez ?»« Il me semblait que je l'aimais, » dit Catherine à voix basse. « Mais je ne me confiais pas à lui non plus. Je ne me suis confiée à personne, et je tâchais toute seule de dissiper cette atmosphère lourde qui m'oppressait, et c'est ainsi que j'ai voulu m'enquérir auprès de cette vieille paysanne qui nettoyait autrefois le jardin. Je savais qu'elle habitait le petit bois Borillo qui est au-dessus du parc. Un petit bois où vous alliez souvent, n'est-ce pas ? » Elle rougit de nouveau. Oui, comme Pierre de Basme ne pouvait venir à la barre, il va autant qu'il aurait voulu, je le rencontrais au bois Morillo. Et c'est là qu'un jour, après l'avoir quitté, je gagnai le logis de la mère Vauchel. À cette date, son fils vivait et travaillait comme bûcheron dans les bois de Tancarville. Elle n'était pas encore folle, mais n'avait pas la tête bien solide. Cependant, je n'eus même pas besoin de l'interroger, ni même de lui rappeler mon nom. Au premier coup d'œil, elle chuchota « Oh, mademoiselle Catherine, la demoiselle du manoir !» Elle garda un assez long silence, s'efforçant de réfléchir, puis se levant sur la chaise où elle écossait des haricots, elle se pencha sur moi et tout bas me dit « Les trois chaules, faut faire attention, ma belle demoiselle. » J'étais confondu. Tout de suite, elle avait parlé de ces trois saules, à propos desquels il y avait pour moi une telle énigme. Et ses idées, vacillantes d'habitude, étaient si nettes à ce sujet qu'elle ajoutait « Faut faire attention. » Mais que signifiaient ces mots ? Sinon que dans son esprit, la vision des trois arbres s'associait à l'idée d'un danger que je courais. Je la pressais de questions. Oh, elle aurait voulu y répondre, elle essayait, mais les phrases n'arrivaient pas à ses lèvres, qui n'achevaient et informes. Tout au plus puis-je comprendre qu'elle articulait le nom de son fils. Dominique. « Dominique !» Je lui dis aussitôt, « Oui, Dominique, votre fils, il sait quelque chose sur ces trois arbres, n'est-ce pas ? Je dois le voir. C'est ce que vous voulez dire ? Bien, je le verrai demain. Je viendrai ici demain à la fin de la journée, quand il sera revenu de son travail. Il faut l'avertir, n'est-ce pas, et lui dire de m'attendre demain. » Demain à 7 heures du soir, comme aujourd'hui, demain. » J'appuyais sur ce mot dont elle paraissait saisir la signification, et je la quittais avec un peu d'espoir. Il faisait presque nuit à ce moment. Je dois dire qu'il me sembla discerner dans l'ombre une silhouette d'homme qui se renfonçait derrière la cabane. J'eus le grand tort de ne pas vérifier cette impression fugitive. Mais rappelez-vous combien alors j'étais peu maîtresse de moi et prête à m'effrayer sans raison très précise. J'avoue que j'eus peur et que je redescendis vivement le sentier. Le lendemain, je montais bien avant l'heure fixée, afin de repartir plus tôt, en plein jour. Dominique n'était pas encore arrivé de son travail. J'attendis longtemps près de la mère Vauchelles, qui demeurait taciturne et comme anxieuse. Ce fut un paysan qui survint. Il annonça que deux camarades le suivaient et qu'ils transportaient le bûcheron Dominique, que l'on avait trouvé blessé sous le chêne qui l'abattait. À l'embarras du messager, je compris le drame. De fait, c'est un cadavre qui fut déposé devant la masure de la mère Vauchelles. La pauvre femme devint tout à fait folle. Le désarroi de Catherine s'accroissait comme si les circonstances passées revivaient devant elle. Raoul, qui sentait que toute tentative pour la réconforter serait vaine, la pressa d'achever. Oui, dit-elle. Oh, cela vaut mieux, mais vous comprenez à quel point cette mort me parut suspecte. À l'heure même où Dominique Vauchesne allait, sans aucun doute, me donner le mot de l'énigme, il mourait. Ne devais-je pas soupçonner qu'il avait été tué, et tué justement, pour empêcher toute explication entre lui et moi? Ce meurtre, je ne puis en avoir la preuve matérielle. Cependant, le docteur de Lillebonne, tout en déclarant que la mort avait été accidentelle et produite par la chute d'un arbre, s'étonna devant moi de certaines anomalies troublantes, comme la découverte d'une blessure à la tête. Il n'y porta d'ailleurs pas attention et signa son procès-verbal. Mais je me rendis sur le lieu de l'accident et trouvai non loin de là un gourdin. Qui accusait? Interrompit Raoul. Mais évidemment l'individu dont vous aviez surpris la silhouette derrière la cabane de la mère Vauchelles et qui savait que le lendemain vous seriez renseigné sur le mystère des trois saules. Mais c'est ce que je supposais, dit Catherine. Et cette supposition, la pauvre mère de la victime ne manqua pas, à son insu du reste, de l'entrevoir et de la renforcer en moi. Chaque fois que je montais rejoindre mon fiancé, j'étais sûr de la rencontrer. Elle ne me cherchait pas, mais un hasard obstiné la mettait toujours sur ma route. Alors elle s'arrêtait quelques secondes, fouillait dans sa mémoire abolie et scandait en hochant la tête: Oh, les trois chaules, faut prendre garde, ma jolie demoiselle, les trois chaules. Et dès lors, j'ai vécu en pleine détresse, tantôt me croyant folle aussi, et tantôt convaincu qu'il y avait contre moi et contre ceux qui habitaient le domaine de la Bariva une menace terrible. Je n'en parlais toujours pas, mais comment ne se fût-on pas aperçu de mes terreurs et de ce qu'on appelait mes lubies? Ma pauvre sœur, de plus en plus inquiète et ne pouvant s'expliquer mon état maladif, me suppliait de quitter Radicatel. Elle avait même préparé plusieurs fois notre prochain départ, mais je ne voulais pas. N'étais-je pas fiancé? Et bien que, précisément, mon humeur changeât un peu la nature de mes relations avec Pierre de Basme, je n'en ai pas moins. Seulement, je l'avoue, j'aurais eu besoin d'un guide, d'un conseiller. J'étais las de lutter seul. Pierre de Basme, Béchou, ma sœur. Je vous ai dit que je ne pouvais pas, pour des causes puériles, d'ailleurs, me confier à eux. C'est à ce moment-là que je pensais à vous. Je savais que Béchou possédait la clé de votre appartement et qu'il l'avait placée sous sa pendule, alors un jour, en son absence, j'allais la prendre. Eh bien, s'écria Raoul, il fallait venir ou même simplement m'écrire. Mais l'arrivée de M. Garcin retarda mes projets à votre égard. J'avais toujours été en bon terme avec le mari de ma sœur. C'était un homme aimable, serviable, qui me montrait de l'affection et que je me serais peut-être décidé à me mettre au courant. Malheureusement, vous savez ce qu'il est advenu. Le surlendemain, ayant reçu une lettre de Pierre de Basme, m'annonçant la résolution implacable de sa mère et son propre départ, je sortis du jardin pour le voir une dernière fois. Je l'attendis au lieu habituel de nos rendez-vous. Il ne vint pas. Et c'est le soir de ce jour que je pénétrai dans votre appartement. Mais, dit Raoul, il doit y avoir eu un fait plus spécial qui détermina votre visite. Oui, dit-elle. En attendant Pierre dans le bois, je fus abordé par la mère Vauchel. Elle était plus agitée encore que d'ordinaire, et son apostrophe fut plus violente, plus précise à mon endroit. Elle me prit par le bras, me secoua, et me dit, avec une méchanceté que je ne lui connaissais pas, et comme si elle voulait se venger sur moi de la mort de son fils, « Toi, Chaule, ma belle demoiselle, c'est à vous qu'il en a le monsieur. Il vous tuera. Prenez garde, il vous tuera. Il vous tuera. » Et elle se sauva en ricanant. Moi, je perdis la tête, j'errais dans la campagne et vers 5 heures du soir, j'étais à Lillebonne. Un train partait, je sautais dedans. « Ainsi, demanda Raoul, quand vous avez pris le train, M. Garcin était assassiné, vous l'ignoriez ?»« Je ne l'ai su que le soir, chez vous, par le coup de téléphone de Béchou. Et vous vous rappelez combien j'en fus bouleversé ?» Raoul réfléchit et dit, « Une dernière question, Catherine. Quand vous avez été attaquée la nuit dans votre chambre, rien ne vous a permis d'identifier votre agresseur avec l'individu que vous avez entreaperçu un soir derrière la cabane de la mère Vauchel ?»« Non, rien. Je dormais, la fenêtre ouverte, et je n'ai pas été averti par aucun bruit. Je me suis senti prise à la gorge, je me suis débattu, j'ai crié, et l'individu s'est enfui sans que je puisse même voir son ombre dans la nuit. » Mais comment ne serait-ce pas le même qui a tué Dominique Vauchel et M. Garcin, et qui a voulu me tuer, selon la prédiction de la mère Vauchel ? Elle parlait d'une voix altérée. Raoul la regarda doucement. On croirait que vous souriez, dit-elle, toute surprise. Pourquoi ? Pour vous donner confiance. Et vous le voyez, vous êtes plus calme, vos traits se détendent, et toute cette histoire vous paraît moins effrayante par le fait seul que je souris. Elle est effroyable, dit-elle avec conviction, autant que vous le pensez. Deux assassinats. Êtes-vous bien certaine que Dominique Vauchel ait été assassiné? Ce gourdin, c'est de blessures à la tête. Et après, au risque d'ajouter à vos craintes, je vous dirai que la même tentative a eu lieu contre la mère Vauchel, et que le lendemain de mon arrivée, je l'ai découverte sous des feuilles, blessée à la tête elle aussi, par un gourdin. Mais cependant, je ne suis pas bien sûr qu'il y ait eu crime. Mais mon beau-frère, s'écria Catherine, vous ne pouvez vraiment pas nier. Oh non, je ne nie rien, je n'affirme rien, mais je doute. En tout cas, ce que je sais, Catherine, et cela, vous devez en être heureuse, c'est que vous avez toute votre raison, que vos souvenirs ne vous trompent pas et que les trois saules devraient être là où ils se trouvaient quand vous vous avanciez sur leurs branches, il y a quelques années. Tout le problème tourne autour de ces trois saules déplacés. Oh, une fois résolu, tout le reste s'éclaircira de lui-même. Pour l'instant, amie Catherine, pour l'instant, souriez. Elle sourit. Oh, elle était adorable ainsi. Il ne put s'empêcher de le lui dire dans un élan de tout son être. Mon Dieu, que vous êtes jolie et si émouvante. Vous ne sauriez croire, chère petite amie, combien je suis heureux de pouvoir me consacrer à vous et comme un seul de vos regards me récompense. Il n'acheva pas. Toute parole trop audacieuse lui semblait une offense pour elle. L'enquête à laquelle procédait la justice n'avançait guère. Après plusieurs jours d'investigation et d'interrogation, le juge ne revenait pas et se remettait plus au hasard qu'aux recherches de la gendarmerie et de Béchoux. Au bout de 3 semaines, celui-ci qui avait renvoyé ses deux camarades ne cachait plus son découragement et s'en prenait à Raoul. Mais à quoi sers-tu? Que fais-tu? Oh, je fume des cigarettes, répondit Raoul. Mais quel est ton but? Le même que le tien. Mais ton programme, ah, différent du tien. Toi, tu suis péniblement le chemin des secteurs, des sous-secteurs et autres calembredaines. Moi, l'agréable chemin où l'on s'abandonne à ses réflexions et plus encore à son intuition. Mais en attendant, le gibier court. En attendant, oh, je suis au cœur de la place, je me débrouille, Béchou. Quoi? Tu te rappelles le comte d'Edgar Poe, le scarabée d'or? Oui. Le héros de l'aventure monte dans un arbre, déniche une tête de mort et fait descendre par l'œil droit de cette tête un scarabée qui lui sert de fil à plomb. Oh, inutile, je connais. Où veux-tu en venir? Ben, accompagne-moi jusqu'aux trois saules. Lorsqu'ils furent arrivés, Raoul escalada l'arbre du milieu et prit place sur le tronc. Théodore, quoi? Suis de l'œil au-dessus de la rivière la tranchée qui permet d'apercevoir sur l'autre versant des roches un petit tertre à 100 pas environ. Je vois. Vas-y. Béchou, obéissant à cet ordre formulé d'un ton impérieux, passa par-dessus les roches et redescendit sur le tertre, d'où il avisa de nouveau Raoul. Celui-ci s'était couché à plat ventre le long d'une des principales branches et regardait dans différentes directions. Tiens-toi debout, cria-t-il, en te faisant le plus grand possible. Méchou se dressa comme une statue. Lève le bras, ordonna Raoul. Lève le bras et raidis ton index vers le ciel, comme si tu désignais une étoile. Bien, ne bouge pas. Oh, l'expérience est tout à fait intéressante et confirme mes suppositions. Il sauta de son arbre, alluma une cigarette et, paisiblement, l'air d'un promeneur qui flâne, rejoignit Béchou, lequel n'avait pas remué et piquait du doigt une étoile invisible. Mais qu'est-ce que tu fiches? Demanda Raoul, l'air stupéfait. En voilà une pause. Enfin quoi, bougonna Béchou, je me conforme à tes instructions. Mes instructions? Ben oui, l'épreuve du scarabée d'or. C'est loufoque. Raoul s'approcha et dit à l'oreille de Béchou. Elle te contemplait. Qui? La cuisinière, regarde-la. Elle est dans sa chambre. Dieu, qu'elle devait te trouver beau en Apollon du Belvédère. Une ligne, un galbe. Le visage de Béchou exprima une telle colère que Raoul se sauva en éclatant de rire. Puis, se retournant un peu plus loin, il lui jeta gaiement. « T'en fais pas, tout va bien. L'épreuve du scarabée d'or a réussi. Allez, je tiens le bout du fil. » Est-ce que l'épreuve tentée aux dépens de Béchou avait réellement fourni le bout du fil à Raoul? Ou bien espérait-il découvrir la vérité par d'autres moyens? En tout cas, il alla souvent avec Catherine jusqu'au logis de la mère Vauchelle. À force de douceur et de patience, il était parvenu à l'apprivoiser sans que la pauvre folle s'effarouchât. Il lui apportait des friandises, de l'argent qu'elle prenait d'un geste brusque et lui posait des questions, toujours les mêmes, qu'il répétait inlassablement. « Les trois sceaux, là, on les a déplacés. Qui les a déplacés? Votre fils le savait, n'est-ce pas? Peut-être a-t-il fait l'ouvrage, répondez. » Les yeux de la vieille brillaient parfois. Des lueurs passaient dans sa mémoire. Elle aurait voulu parler et dire ce qu'elle savait. Quelques mots eussent suffi pour que tout le mystère apparût en pleine clarté, et l'on sentait qu'à la première occasion, ces quelques mots se formeraient en elle et lui viendraient aux lèvres. Raoul et Catherine en avaient l'impression profonde et anxieuse. « Elle parlera demain, » affirma Davenac un jour. « Soyez sûr qu'elle parlera demain. » Ce lendemain-là, lorsqu'ils arrivèrent devant la cabane, ils avisèrent la vieille étendue sur le sol auprès d'une échelle double. Elle avait voulu brancher un arbuste, un des montants de l'échelle avait glissé, et maintenant la pauvre folle gisait morte.